Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.
Par la bande. Épisode 6. 1903-1905, les Upside Down de Gustave Verbeek. Upside Down. Arrivé en bas à droite de la page, d'un simple geste, le lecteur la retourne et le récit se poursuit. Il y a un léger temps d'arrêt, le temps de faire pivoter l'ouvrage, et ce n'est pas une autre histoire qui apparaît, mais bien la suite de ce qu'on vient de lire. Loin de provoquer une rupture du récit, le renversement en assure la continuité. Gustave Verbeek aurait très bien pu écrire une histoire qui, une fois retournée, laisse place à une autre. Mais il choisit, au contraire, de faire de cet instant d'arrêt de la lecture le lieu où deux moments du récit s'articulent. Dans un premier temps, en général, il opère à une mise en place et à la montée du drame jusqu'à un climax. Arrivé là, le lecteur retourne donc la page et c'est à une descente du drame qu'il assiste, jusqu'à sa résolution et le retour à la normale. Le premier mouvement du récit, alors ascendant, dans son retournement, devient descendant. C'est quand même une surprise de constater que les images que l'on vient de lire, une fois retournées, se lisent encore, mais qu'elles disent et montrent autre chose, tout en poursuivant ce qui les précède. Pour réaliser ce tour de passe-passe, Verbeek tord la ressemblance, le principe de mimésis qui caractérise tout un pan de la représentation figurative, et l'affaiblit. Il opte pour un certain degré d'indétermination des formes, permettant d'accueillir des objets contradictoires ou fusionner ce qui a priori s'exclut, jeune, vieux, homme, femme. La question que l'auteur pose est celle-ci. Que voit-on ? Et il répond, cela dépend des points de vue adoptés. Mais quand bien même, ils ne sont pas incompatibles, ni ne s'excluent, bien au contraire, ils s'articulent, voire se superposent. Géraldo Klein rapproche cette façon d'agencer des perspectives différentes d'un même objet du cubisme. Ici, cependant, ce n'est pas tout à fait le cas. Si le principe du cubisme est bien de rassembler l'ensemble des points de vue que l'on peut voir de quelque chose, la nature de celui-ci n'en est cependant pas altérée. Une guitare, après sa déconstruction-reconstruction cubique, reste une guitare. D'autre part, dans les Upside Down, on n'a pas affaire à deux points de vue différents sur un même objet, mais sur un même tracé. Et cette double perception d'un seul graphique n'aboutit pas à l'appréhension dédoublée et déplacée d'une même réalité, mais à deux distinctes. Pour finir, la perception des différents points de vue n'engage pas la même temporalité. Dans le cas du cubisme, elle est simultanée, avec Verbeek différée. Ce principe de retournement est affirmé par la caractérisation graphique des deux personnages principaux. Le vieux Mufaro devient par ce geste la jeune Lady Lovekins et vice-versa. De vieux, il devient jeune, il est homme, le voilà femme. Là aussi, Verbeek n'a pas choisi de dessiner deux personnages masculins, un jeune, un vieux, ou deux féminins, vieilles, ou toute autre combinaison possible entre ces quatre caractères, voire même deux jumeaux, personnages parfaitement réversibles. Mais il choisit de fusionner ce qui représente la plus grande différence possible pour souligner, une fois encore, ce geste de renversement des images. De fait, il n'y a qu'un personnage qui, selon comment il est vu, se présente sous deux aspects différents et inversés, homme, vieux, femme, jeune. Ce personnage, dont le nom complet pourrait être Old Lady Mufaro Lovekins, concentre en lui le plus large éventail de caractéristiques premières. Il est à la fois et vieux et jeune, et homme et femme, même si certaines combinaisons sont barrées, puisqu'il ne peut se présenter comme jeune homme ou vieille femme. On n'est pas ici dans un monde à l'envers, mais dans un univers où ce qui s'inverse poursuit le monde à l'endroit. Les aventures de nos deux héros se déroulent le plus souvent en extérieur, dans un décor de campagne et de nature plutôt banal. Et si on y croise des animaux et d'autres personnages, s'y rencontrent aussi des ogres, des sorcières, des fées, des dragons et autres gobelins. Si les histoires et les intrigues se semblent simples, c'est que le sens ne s'y joue que peu. Il est bien plus dans la complexité des métamorphoses produites par le principe de retournement. Ce qui importe, c'est la mise en évidence de la possibilité pour les formes de changer de sens, c'est le cas de le dire, et même de les superposer, de ne pas rester assignés à un seul. Le propre des formes, à savoir leur ambiguïté et leur plurivocité, est ici explicitement mis en œuvre. Une image est toujours un reflet, une trace ou une empreinte. Elle nécessite une lecture, une interprétation, et est toujours susceptible d'en contenir ou d'ouvrir sur une autre. Cette façon de déstabiliser l'assurance des représentations transforme ce qui semblait léger en quelque chose qui pèse soudain d'un poids étrange. Et ce qui se donnait pour anodin apparaît quelque peu troublant. Ce mouvement de rotation est le moteur d'une métamorphose généralisée. Et c'est par une précise imprécision du dessin que celle-ci est rendue possible. Les représentations ne sont pas, pour en parler, interchangeables. Elles sont changeantes. Oldman Mufaro ne remplace pas Lady Lufkin, il le devient. C'est un dynamisme du devenir que l'on a à faire jusqu'au remplacement d'une chose par une autre. En outre, le tracé que l'on perçoit est strictement le même, quelle que soit la manière dont il se présente à nous. Mais son changement d'orientation transforme la compréhension que nous en avons. Le sens, l'orientation, bouleverse le sens, la signification. Ce qui veut dire que cette dernière est liée au rapport spatiaux que nos corps entretiennent avec ce qui est. Mais la signification est aussi prise dans une épaisseur temporelle, puisque, pour avoir accès à la totalité du récit, il me faut prendre connaissance des deux points de vue qui le constituent l'un après l'autre. Dans une autre série de Gustav Verbeek, The Terrors of the Tiny Tads, la construction du récit obéit à toute autre contrainte. Pour chaque histoire de celle-ci, Verbeek part d'un mot-valise associant ensemble deux noms du vivant, ou un nom du vivant à un nom d'objet, à partir duquel il peut dessiner des monstres étranges qui, à leur tour, deviennent la matrice du récit. Tout s'articule autour de créatures hybrides déjà nommées. Ce qui semble intéresser Verbeek, ce n'est pas tant d'arpenter les confins de la représentation que d'utiliser des processus ou des dispositifs lui permettant de générer des images insolites. Voilà, pour l'épisode 7, je vous entretiendrai de Building Stories de Chris Wells. Merci et à bientôt.
Les adultes, notamment, ont commencé à avouer lire la bande dessinée. Ils la lisaient déjà, mais ils l'ont avoué. C'est entré dans les mœurs.
Cette maison d'édition a une devise. Du travail, c'est bien. Du travail sérieux, c'est mieux.
Nous nous occupons de créer des structures nouvelles. Nous laissons les écrivains en faire des chefs-d'œuvre ou des navets.
Si le gag n'apparaît qu'en fin d'exécution, alors là, c'est un vrai plaisir.